s'installe sur la rue Marais. Et pendant la vente 10 jours jusqu'au 2 janvier, obtenez un boni minimum de $750 sur la Forte à $18,705.
Le retour d'Éric Duhaime.
La chronique C'est ça Québec avec François Bourque.
Voici un grand moment de radio.
François Bourque du Soleil, comment vas-tu?
Ça va bien?
D'abord, on va commencer par les questions d'usage personnel. Au-delà de te souhaiter bonne année, blablabla, comment a été ton réveillon?
Réveillon, ça s'est bien passé. Ça a été essoufflant cette année.
Ah bon?
Oui, c'était un enchaînement de plusieurs rencontres d'amis, de famille et autres.
Un agenda serré.
Agenda serré.
Comme celui de lui.
Puis là, gros point d'interrogation, demain, je devais descendre à Montréal. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Oh!
La décision va se prendre... demain matin.
Je suis.
Et tu dissipes téméraire sur la route?
Bon, on ne fait pas exprès. Il n'y a pas d'obligation, mais ça fait partie des points d'interrogation aujourd'hui.
Ouais. Tu auras ta réponse, d'après moi, cette nuit.
Cette nuit seulement.
Ou au réveil, ça dépend. Hein. Encore là. Peut-être que tu es un veille-tard.
On ne connaît pas sur tous les aspects. Je pense que la décision va se prendre demain matin.
François Bourque, je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour faire un exercice ultra ludique, absolument pas contraignant. Donc, tout ce que tu vas dire ne sera jamais retenu contre toi. Mais quelles sont les tendances pour la Ville de Québec? Puis, ma question est super large. Que je ne t'ai pas demandé d'aborder un sujet en particulier. Je suis juste curieux de voir, étant donné que tu baignes là-dedans à journée longue. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu penses qui s'en vient en 2020 pour la Ville en général sur les aspects qui, toi, t'intéressent de te prononcer.
Bien, première chose, moi, je pense que ça va être... Tu vas dire que ce n'est pas la première fois, mais ça va être une grosse année encore de débat sur le troisième lien.
Ah, pour vrai?
Quelle surprise, hein? Non, mais pour vrai, ce qui s'en vient, c'est... Moi, je pense que ça va arriver assez tôt dans l'année. Le gouvernement va dévoiler des chiffres sur les coûts du troisième lien. Et ça, je pense que ça va être une bombe. Ça va être... Si je vais faire une hypothèse là, ou une projection, là, c'est pas... si on regarde dans la boule de cristal, qui est toujours un peu flou, mais quand même, ça va être 8,5 milliards pour un tunnel, le tunnel qui a été promis.
Donc, le double à peu près de ce qu'on avait pensé.
Bien, ce qui avait été évoqué à date, c'était 4 millions, mais c'était déjà il y a plusieurs années. Ouais. Et il n'y avait pas eu de... Tu sais, c'est un chiffre très, très général. Bien, souvent, pour ces grands projets-là, quand on donne le premier chiffre, ce qu'on a fait, bien souvent, c'est une règle de 3 à partir des coûts
similaires
observés
ailleurs.
Pour des projets un plus ou moins similaires ailleurs. Donc, c'est un coût qui est très général. On n'a pas commencé à regarder dans quoi on va creuser, où on va passer. Donc, c'est un coût, un ordre de grandeur très général. Donc,
quand tu parles d'une bombe, là, François, tu t'attends à quoi? C'est par rapport à la réaction des citoyens en général ou la réaction des médias? De...
Ben, il va y avoir un peu de tout ça, mais il va y avoir surtout une grosse réaction. Puis là, on fait des hypothèses.
Oui,
là,
oui.
On parle pour parler. Personne nous écoute ou moins de monde que d'habitude. Donc, c'est pas... En fait, la première grosse discussion, ça va être dans le caucus de la CAQ. Auprès des ministres de la CAQ, tous ceux qui sont pas de la région de Québec puis qui ont pas promis un troisième lien avec la même intensité que les députés locaux vont être ébranlés par cette étude-là qui va donner les coûts. Et là, il va commencer à avoir des tensions à l'interne. On va dire, voyons, ça n'a pas de bon sens de mettre autant d'argent sur un projet qui va pas servir tant de monde que ça, dont l'efficacité est pas démontrée. Donc, il va y avoir des grosses tensions à l'interne, grosses discussions au sein du gouvernement de la CAQ qui va finalement décider de quoi? De laisser tomber.
Tu penses?
Je pense qu'il a déjà préparé le terrain un petit peu. On sait déjà que le fédéral est pas plus enthousiaste qu'il faut pour participer au financement de ce projet-là. Donc, ébranlé par les déchirements à l'interne, le gouvernement de la CAQ va marcher sur sa promesse d'un troisième lien. Par contre, il va dire il faut que je propose quelque chose d'autre
pour
en retour. Et là, l'interconnexion entre les deux rives va peut-être profiter de travaux à venir pour refaire éventuellement, il va falloir refaire le tablier du pont de Québec, on le sait. Hein, dans le budget de l'an dernier, il y a 200 millions qui avaient été prévus pour refaire le tablier. Le tablier, c'est la portion qui supporte la voie carrossable. Et ça, c'est une portion du pont de Québec qui n'a rien à voir avec l'océan. C'est convenu que c'est à la charge du gouvernement du Québec de faire l'entretien de ça. Et il y a déjà 200 millions qui ont été prévus. Probablement que ça va être plus que ça, mais on a déjà commencé à prévoir l'argent pour refaire le tablier. Et tant qu'à le refaire, moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pression pour dire on va le refaire, mais un petit peu plus bas qu'actuellement, pour permettre éventuellement le passage d'un tramway sur le pont de Québec, comme ça avait déjà été envisagé il y a plusieurs années. Donc, ça serait une façon éventuellement de recréer cette interconnexion entre les deux rives. Puis moi, depuis le début, enfin là, je regarde dans la boule de cristal ce que j'ai envie de voir aussi. Là, et ce que j'aurais envie de voir, c'est ça. C'est qu'on dise, on va en profiter pour prolonger le projet de tramway vers la rive sud.
Mais ça, ce serait comme étagé, là.
Non, ce ne sera pas étagé. C'est simplement que vouloir faire passer à l'endroit où est la voie carrossable en ce moment, si on voulait mettre un tramway là-dessus, ça coince un petit peu. Il n'y a pas la hauteur suffisante. Donc, il faudrait abaisser un petit peu le tablier, mais pas faire deux étages, mais juste abaisser un peu le tablier qui supporte la chaussée pour qu'on se crée l'espace nécessaire pour faire passer éventuellement un tramway qui irait vers la rive sud. Donc, l'interconnexion pourrait venir de là. Moi, c'est mon premier grand sujet.
J'aime ça, c'est bourré de sens.
Ouais, ben, en tout cas, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus.
Mais c'est que c'est un scénario qui se peut. Avouons-le.
C'est pas complètement invraisemblable. Ben, évidemment, le coup, là, ça, il est sorti de nulle part. Là. J'ai pas eu accès à des secrets sur les coûts, mais c'est rare que les grands projets coûtent moins cher que ce à quoi on s'attend.
Ben, ouais, effectivement.
Fait que ça serait un premier grand sujet.
Okay.
Un deuxième. Abandon officiel ou formel du projet du phare. On sait que ce projet-là a du plomb dans l'aile déjà, pour toutes sortes de raisons. En fait, il y a des difficultés techniques, mais d'énormes difficultés de financement. D'ailleurs, c'est pas là-dessus, j'invente rien. C'est le promoteur lui-même, M. Dallaire, qui a reconnu que à partir du moment où il faut dire les choses comme elles sont. Il s'est fait mettre dehors de Cominard et il y a eu une rupture entre Cominard et le groupe Dallaire. Ça a compromis le financement qui était prévu pour ce projet-là. Et je pense que depuis ce temps-là, il cherche à intéresser des gros locataires ou des gens qui vont être capables de prêter de l'argent pour faire lever ce gros projet-là. Et on le voit, ça tarde, là. Alors, et pendant ce temps-là, ce à quoi on assiste, puis j'ai l'impression que ça va probablement s'accélérer. J'ai l'impression que sur tous les terrains vacants qu'on retrouve dans ce secteur-là du centre-ville de Sainte-Foy, le long du boulevard Laurier, les autres promoteurs profitent de ce vacuum-là créé par la stagnation du projet du phare pour se dépêcher à construire et aller chercher ou attirer les locataires qui sont intéressés à s'en aller dans ce coin-là de Sainte-Foy, vont venir occuper les locaux de sorte qu'à un moment donné, le marché pour le phare va tranquillement se réduire. Au plan urbain, moi, en tout cas, je vais pas pleurer parce que on le sait. Moi, c'est pas tant une raison philosophique sur la hauteur, là, mais c'est sur l'impact, la façon dont on serait capable d'ancrer ce projet-là dans son voisinage. Il n'y a pas les conditions gagnantes pour en faire un projet intéressant.
Est-ce que tu penses que cette section-là de Sainte-Foy va continuer à croître en 2020 de façon intéressante ou on a déjà fait un peu le tour?
Ah non, moi, j'ai l'impression que c'est en train de s'accélérer. Okay. En ce moment, on le voit, là, il y a plein de grues. Moi, j'ai jamais vu ça. Si on passe sur la route de l'église en ce moment, sauf erreur, il y a trois grues et puis il y a plein d'autres terrains vacants. Et je pense que ce qui va probablement arriver aussi, puis qui découle un peu de la mise à l'écart du projet Lefaire, c'est on sait que Lefaire, ça devait être le pivot, le pôle d'échange de l'Ouest, le gros pôle d'échange de l'Ouest pour là où venaient se connecter les bus de Lévis, le tramway, les métrobus, les express qui vont arriver par Rochelaga.
Il y a une gare prévue là, pour tout ça.
En dessous du phare, c'est ça. Et là, on sait qu'il y a des difficultés techniques avec ce projet-là. Et donc, évidemment, ça retarde. On peut pas construire le phare à cause des problèmes qu'il y a en dessous. Mais en plus, il y a des problèmes de financement pour le faire. Les conditions de succès ne sont pas au rendez-vous pour ça. Moi, je pense qu'on va en profiter pour essayer de voir si le pôle d'échange, est-ce qu'on peut pas le déplacer un petit peu plus à l'est, le rapprocher de la route de l'église. Il y a plein d'immenses terrains vacants, en fait, qui sont des stationnements de surface actuellement là, autour du Canadian Tire, dans ce coin-là. Il y avait à l'époque eu une suggestion d'en faire le pôle d'échange. Moi, je pense que cette idée-là va probablement revenir. Là. D'ailleurs, je serais pas surpris qu'on y réfléchisse déjà. Là. La Ville de Québec nous le dit pas. Il ne veut pas nous le dire, il continue de penser, de dire publiquement le bon site pour le pôle d'échange, c'est sous le phare, mais moi j'en doute. Moi, j'ai l'impression qu'on est déjà en train d'examiner pour déplacer le pôle. Ce qui va accélérer, pour répondre à ta question, ce qui va contribuer à accélérer, je pense, le développement de la route de l'église, c'est tout le monde va avoir intérêt à vouloir se loger, je parle des commerces, de bureaux, autour d'une station d'échange importante. Ça va être un élément stimulant et structurant. Donc, ça, c'est. Moi, je vois ça dans ma boule de cristal pour la okay. pour l'année qui.
Encore une fois, ça se tient.
Oui, c'est ça. Troisième chose, moi, je pense que le maire Labeaume va revenir en force en 2020. il a été très absent au cours de l'année qui se termine. On sait pourquoi, il y a eu maladie, mais même l'année précédente, il avait été assez discret. C'était l'année des élections provinciales. Et il avait choisi, je pense, de pas de s'effacer un petit peu pour laisser l'espace public aux candidats aux élections provinciales. Donc, on l'a moins vu il y a deux ans. Cette année, on l'a vu encore moins pour la raison qu'on connaît. Mais je pense qu'il y a des petits signaux en fin d'année qui suggèrent qu'il est en train de retrouver un peu son niveau d'énergie. Moi, je pense qu'en 2020, il va nous annoncer ou confirmer qu'il va être à nouveau candidat à la prochaine élection. Normalement, théoriquement, ce serait à l'automne 2021. Mais aux surprises, l'élection ne sera pas en 2021, l'élection municipale.
Pourquoi?
Parce que le gouvernement réfléchit actuellement, puis ça c'est vrai aussi, c'est pas juste dans ma boule de cristal,
ouais, ouais.
Mais le gouvernement réfléchit, c'est une demande qui vient du monde municipal, demande pour reporter les prochaines élections municipales à 2022, au printemps 2022, plutôt qu'à l'automne 2021. Donc, les reporter de...
Mais pour quelle raison?
De 6 mois. Pourquoi? Une des raisons, entre autres, c'est que dans le cycle des élections, les élections provinciales et fédérales maintenant sont à date fixe, c'est l'automne, sauf qu'avec un gouvernement minoritaire, ça peut arriver n'importe quand. On veut pas avoir deux élections en même temps. Donc, le risque est... Et on déplacerait donc les élections municipales au printemps pour qu'elles soient toujours au printemps plutôt qu'à l'automne.
Ah bon?
Mais ça, c'est une des raisons. Mais la vraie raison, la plus importante, c'est pas ça. La raison la plus importante, ce serait d'être capable de que le nouveau maire arrive en place plus tôt dans l'année. Parce que là, quand les maires arrivent au mois de novembre, si on est élu au mois de novembre, c'est le cycle, dans le cycle de la vie de la ville, c'est déjà le moment d'adopter le budget.
Ouais, c'est ça, tout est
et là, le nouveau maire arrive, puis il peut toucher à rien. Ça veut dire que la première année de son mandat, il est comme paralysé. Il peut pas intervenir beaucoup dans des décisions.
C'est donc, 25% de mandat qui tombe à l'eau.
Ben, qui en partant, là, est déterminé par des décisions prises par d'autres avant lui. Donc, si on devançait les élections au printemps, donc ça permet à un nouvel élu d'arriver plus tôt dans le cycle budgétaire, puis d'être plus efficace plus vite. Enfin, alors, le gouvernement réfléchit à ça en ce moment, puis il pourrait donner suite dans le courant de la prochaine année. Donc, je referme ma parenthèse.
Ouais.
Si les élections pourraient arriver quelque part en 2022. Et le maire Labeaume, on le sait là-dessus, il a déjà parlé là-dessus. Il dit, mon héritage, le legs que je veux laisser, moi, il dit, c'est pas un amphithéâtre. Ça sera pas l'amphithéâtre. Puis quand on voit qu'il est pas occupé de la façon dont il espérait qu'il soit occupé, on peut comprendre qu'il souhaite pas que ce soit le legs qui va laisser à l'histoire. Je pense là-dessus, très clairement, ce qu'il souhaite léguer comme héritage, c'est un transport plus efficace pour la ville de Québec. Donc, il va se représenter. Il va retrouver son niveau d'énergie. Il va se représenter. Et ça va avoir un effet aussi, là, toujours dans ma boule de cristal. Hein. Le fait que Labeaume annonce qu'il se présente, moi, je pense que ça va faire réfléchir des gens de l'opposition qui vont recommencer à se demander est-ce que M. Gosselin, qui est le leader de l'opposition actuellement, est le bon candidat pour retourner à une prochaine élection. Si Labeaume est encore là, est-ce que M. Gosselin fait le poids contre Labeaume? Moi, je pense que ça va à nouveau provoquer des réflexions au sein du parti d'opposition. Est-ce qu'on va voir quelqu'un de nouveau apparaître pour mener le combat? Et puis, si le combat doit se faire, prochain combat doit se faire sur le tramway, là, il va peut-être déjà commencer à être presque en chantier quand on va arriver à la prochaine élection. Est-ce que quelqu'un voudra arrêter ce chantier-là? Est-ce que ça va être quelqu'un de la radio qui actuellement sont parmi les voix les plus fortes qui s'opposent au projet de tramway, à part M. Gosselin? Alors, point d'interrogation là-dessus, mais moi, je vois un peu cette réflexion-là se dessiner dans les rangs de l'opposition.
Mais François, on est à 2 ans et demi là, de la prochaine élection. Le maire, toi, tu dis, il va se représenter. Tu penses qu'il a l'intention ou qu'il pourrait déjà, dans la prochaine année, là, vraiment se positionner puis dire, ben là, moi, j'y vais.
Ben moi, c'est ça. Je suis dans ma boule de cristal. Moi, je pense qu'il va vouloir dissiper les doutes là-dessus. Puis il va dire, j'y vais. Là, il a déjà envoyé de ces signaux-là en disant que ça l'intéressait.
Ouais.
On comprenait que ça pouvait dépendre de son état de santé.
Ouais,
mais si son niveau d'énergie revient, moi, je pense qu'il va l'annoncer cette année. En fait, toujours, j'ai pas d'informations privilégiées.
Non, non, non.
Là.
Mais
on est dans la boule de cristal.
Il donne la chance à l'opposition de se préparer davantage. Sachant qui ils vont affronter.
Ouais, ça peut être ça, mais ça peut aussi avoir l'effet contraire, dans le sens où les gens ont peur d'affronter M. Labeaume dans les débats publics. Donc, si on sait déjà qui revient. On sait déjà qu'il revient. Il y a peut-être bien des gens qui vont préférer pas y aller aussi. Ils vont préférer calmer leur ardeur ou leur intérêt. Donc, là, c'est pas clair. C'est un peu brouillé dans ma boule. Dans ma boule de cristal.
Mais admettons que je te demande de te prononcer sur... ne serait-ce qu'un seul nom que tu verrais qui pourrait faire la différence à se présenter contre Régis Labeau?
Je sais pas. Est-ce que... Je sais pas, on a déjà évoqué, c'est un nom qui a déjà circulé. Je sais pas dans quelle mesure il est brûlé ou pas. Est-ce que la suite des procédures judiciaires va faire en sorte que Mme Normandeau, par exemple, son nom va être lavé en quelque sorte, puis elle va avoir encore le goût de la chose publique, puis elle va avoir envie de revenir. C'est un nom qui a déjà été évoqué, qui est pas complètement invraisemblable. Un nom que j'entends aussi des fois, mais encore là, c'est pas des informations privilégiées. Je fais juste répéter des bruits que j'ai entendus. Est-ce que, est-ce que la rectrice de l'Université Laval peut avoir un intérêt pour ça, je sais pas.
Sébastien
Proulx, c'est un nom qui a déjà circulé. Là. Peut-être que les gens vont avoir le temps d'oublier. En tout cas, moi, je suis pas sûr. Je vais réussir à oublier, par exemple, ce qui a fait partir. Moi, je trouve ça assez indécent. Partir après quelques mois, après avoir sollicité les électeurs de Jean Talon en disant « Je veux vous représenter parce que ton parti n'est pas élu, puis quand tu as peur de t'ennuyer si tu n'es pas ministre, tu décides, oh, finalement, je vais partir et tu déclenches une élection partielle qui a coûté 500 000 $. Moi, je trouve que c'est assez indécent, mais les gens oublient vite ces choses-là. Moi, j'oublie moins vite, là, mais les gens l'oublient vite. Enfin, peut-être que dans quelques années, c'est un...
Tu l'auras oublié aussi.
moi, je l'aurais pas oublié, mais peut-être qu'il y aura assez de gens qui l'auront oublié pour lui permettre d'envisager un retour. C'est quelqu'un qui a une certaine envergure, puis il faut le dire, il y avait dans un gouvernement libéral qui était très usé. Lui, il s'en est assez bien tiré. Ouais. Quand il est arrivé à l'éducation, tous ceux qui avaient passé avant lui s'étaient un peu cassé les dents là-dessus. Et lui avait plutôt bien réussi, était bien perçu. Puis c'est quelqu'un qui est capable d'être assez conciliant aussi. Donc, il y a un certain nombre de qualités de rassembleur ou de leader qui rendent la chose possible. Hein. Donc, voilà. Donc, on en était où, donc? Alors, on a parlé de notre troisième lien, on a parlé
de la bombe,
on a parlé de la bombe. Quoi d'autre? Ah, ben là, on va rêver. On va rêver dans la boule de cristal. OK. Le Festival d'été va avoir la plus grosse édition qu'il y a jamais eue.
Ah!
Le Festival d'été. Et on va voir dans une même année Coldplay, U2, Springsteen, puis Eminem. Hein? C'est quand même bien, ça. Hein?
C'est pas possible.
Hein?
Wow!
Hein?
C'est absolument pas impossible.
Non, je pense que c'est assez.
Financièrement, c'est peut-être difficile.
Financièrement, c'est impossible.
Je pense que c'est son rêve à lui.
Non, c'est ça. Merci, ben c'est c'est assez intéressant.
Non, mais on n'est plus dans les prédictions, on est dans les souhaits.
Ouais.
On est dans les souhaits, correct, ça, on est tout ça se confond. Non, mais blague à part, je pense que le Festival d'été a déjà évoqué l'idée d'avoir deux gros noms par année. Là, il y en avait deux aussi l'an dernier. Et c'est des noms qui sont pas invraisemblables dans le sens où on les a déjà approchés. Coldplay avait failli venir une année. On se souvient dans quelle drôle de circonstances, finalement, ça a été... le projet a pas fonctionné. Pour la petite histoire, ceux qui auraient oublié... c'était à peu près conclu, sauf que le maire de Québec avait eu vent de la chose à l'époque et ça en était ouvert publiquement et ça s'était rendu aux oreilles de l'organisation de Coldplay. Ils ont dit non, c'est nous autres qui annonce où on va et ils ont dit on n'y va pas.
Oh,
alors, c'est arrivé, mais...
Il a brûlé le dossier.
Mais le rêve, le souhait de voir Coldplay venir à Québec, ça fait combien de fois ils vont à Montréal, Coldplay? Plusieurs fois. Moi, je les ai vus quelques fois à Montréal.
Oui.
Mais à Québec, jamais encore. U2, c'est pareil. Coldplay, l'an dernier, ne tournait pas. L'an prochain, je pense qu'ils vont recommencer à tourner. Mais ben, Springsteen, ça fait quelques années qu'on essaye de l'intéresser à venir. Il est allé partout. Il est allé au Nouveau-Brunswick, à Ottawa, mais jamais ici.
Surtout récemment.
Alors, moi, j'ai hâte de le voir pour vrai sur une scène. Puis Eminem aussi, ça fait partie des gros noms. Donc, peut-être qu'il y aura deux... Avec un peu de chance, il y aurait deux de ces quatre noms-là qu'on retrouverait au Festival d'été. Hein. J'aimerais ça vous dire que les quatre vont y être.
Même juste un, ce serait extraordinaire.
Hmm? Oui, t'as nommé quatre noms au top. Là. Ah, oui, c'est sûr. Moi, YouTube, je les ai vus à Montréal, justement, avec leur tournée. Où est-ce qu'il était à l'hippodrome, là?
Oui.
Ils montaient un stade pour l'occasion.
Ils ont fait construire, hein?
Oui.
Écoute, c'est quelque chose.
Okay. Ouais. Donc, on rêve pour le Festival d'été. Quoi d'autre? Dans ma boule de cristal pour 2020, il nous reste encore quelques...
On a encore 2-3 minutes, là.
Encore 2... Ouais. OK. Pour la deuxième année consécutive, en 2020, on parlera pas de Nordiques, du retour des Nordiques.
C'est du jamais vu, hein?
Ben, c'est du jamais vu depuis 2009. En tout cas, on avait recommencé à en parler avec pas mal d'intensité, on s'en souvient, en 2009.
C'est un bon point.
Et là, il me semble que tous les espoirs achèvent de se... Toutes les fenêtres achèvent de se refermer. Toutes les équipes qui qu'on imaginait vouloir déménager ou qui pourraient déménager, un après l'autre, ces dossiers-là se règlent. Seattle est en train d'avoir... va avoir son équipe. Est-ce que ça va être en 2020? C'est 2020,
ouais,
je pense. C'est l'automne 2020, est-ce que c'est
ça? C'est ça. Le repêchage d'expansion va se faire l'année prochaine. Donc, va arriver en 2021.
C'est 2021, ouais, exact, OK. Ouais. Mais en tout cas, c'est déjà acquis ou à peu près que la prochaine équipe s'en va là.
C'est ça.
L'Arizona, c'est pas toujours réglé, mais on le regarde, sont en tête de leur ouais, division absolument. En ce moment. C'est vraisemblable. C'était une équipe qui était vouée à tous les échecs il y a quelques années. Et puis là, on a l'impression qu'il y a un petit renouveau. Et puis, tu sais, c'est avec Las Vegas qui a son succès, tout ça. La thèse de l'Ouest continue de se renforcer. Donc, pour la deuxième année, mais ça, savez-vous, j'ai l'impression que pas que tout le monde s'en fout ou que tout le monde est résigné, mais il me semble qu'il y a personne qui semble y croire encore à Québec.
Il y a eu une baisse d'intérêt.
Ce projet-là, il y a une baisse d'intérêt, puis je sais pas dans quelle mesure l'économie de Québec, même si elle va infiniment mieux qu'à l'époque où l'équipe était partie, tu sais, il y a encore des doutes. Est-ce que, dans quelle mesure, on aurait pu faire vivre cette équipe-là pendant longtemps? Tu sais, oui, la première année, un effet de nouveauté, puis après ça s'essouffle. Tu sais, on l'a vu. Il y a d'autres, même des sports qui coûtent pas mal moins cher. Le Rouge et Or, on sent qu'il y a un essoufflement un petit peu dans les foules. Les Remparts, on n'en parle pas. Même les Capitales ont déjà eu de meilleures années.
Oui, c'est vrai.
J'ai l'impression qu'il y a d'autres événements, d'autres activités qui ont tranquillement pris le relais. L'offre culturelle, c'est un petit peu diversifié, puis bref, pour la deuxième année consécutive en 2020,
bon,
on ne parlera pas beaucoup, on ne parlera pas des Nordiques, à peu près. J'aurais envie de voir dans ma boule de cristal aussi que Catherine Dorion va avoir compris le message, qu'elle était devenue...
Qu'elle va avoir...
Ben là, j'hésite, est-ce qu'elle va s'habiller, est-ce qu'elle va rentrer dans le rang au niveau vestimentaire, ou est-ce que le président de l'Assemblée nationale qui a jonglé avec ce sujet délicat depuis le début, est-ce qu'il va imposer un code vestimentaire aux députés de l'Assemblée nationale, comme dans les écoles secondaires, avec un choix, là, un choix en telle couleur, telle couleur, une jupe, un veston, un pantalon, les cols roulés, et enfin, peut-être les cravates aussi. Enfin, il n'y aura peut-être pas le coton ouaté dans son code vestimentaire. Est-ce qu'il ira jusque-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va commencer à entendre le message qui va peut-être venir de...
Tout le monde à mi-chemin.
Qui va peut-être venir de l'intérieur de son parti en disant, écoute, t'es pas mal intentionné, mais tu finis par apparaître d'une distraction et puis tu nous aides pas. Ben, on l'a vu dans Jean Talon, Québec solidaire avait quand même certains espoirs et finalement, ils ont fait moins bien qu'à l'aide générale d'avant, malgré qu'ils aient eu une énorme visibilité du fait qu'ils sont plus nombreux à l'Assemblée nationale. Mais je pense que ça finit par être une distraction. Puis elle finit par mettre en évidence le mauvais côté de Québec solidaire par cet entêtement à faire à sa tête et à faire plaisir uniquement à ses militants plutôt que de servir la collectivité. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne s'occupe pas de son comté. Là. C'est pas ça que je dis, mais dans l'image qu'elle projette, elle a l'impression d'agir beaucoup.
Ça fait beaucoup
plus pour ses militants que pour l'ensemble des citoyens de sa circonscription. Donc, moi, je prédis qu'elle va soit rentrer dans le rang ou que le président de l'Assemblée nationale va
imposer son code. Peut-être juste pas mettre de coton ouaté, c'est tout. Là.
Ouais. Non, mais c'est le contraste aussi. On dit son habillement, mais c'est plus que ça. C'est l'ensemble des déclarations de vidéos controversées, la querelle avec la ministre de la Culture où elle diffuse une vidéo dans laquelle elle met seulement qu'une partie de la réponse. Donc, elle fait ce qu'elle reproche à d'autres de faire aussi. Je pense que le temps des fêtes, je sais pas si on l'a moins entendu. Peut-être que ça aura été l'occasion d'une réflexion. Puis en plus, il y a quelque chose que je prends personnel dans son discours public. Quand elle dit, vous savez que les journalistes, on est très concernés, moi dans mon cas, par l'avenir de mon journal. On sait qu'il y a de l'aide publique qui s'en vient pour les médias en presse écrite et qu'il y a des salaires de journalistes qui vont pouvoir être déductibles d'impôts pour les entreprises. Madame Dorion a continué de militer tout l'automne en disant que les salaires de chroniqueurs devraient pas être inclus là-dedans, c'est pas des journalistes. Ça, j'ai pris ça personnel. Mm-hmm. Je me suis senti visé par ça. Alors voilà,
je comprends.
Alors j'espère que là-dessus aussi, elle va rentrer dans le rang puis convenir que aussi contribue au débat public puis sont utiles à la vie démocratique.
Ben moi, je peux te dire, François, que ton segment aujourd'hui était extrêmement intéressant. Ils ont contribué à ce qu'on ait une émission le fun. Puis je te remercie parce que j'adorais ça, cet angle-là de la prospective. Puis tu m'as surpris tout le long. Je souscris à absolument tout ce que tu dis, mais tu m'as surpris parce que tu arrives avec des sujets que si on m'avait demandé le même exercice, je pense pas que je serais allé jusque-là. Tu fais que chapeau.
Ben, l'importance d'avoir beaucoup de voix qui parlent sur la place publique.